La pensée chinoise s'inscrit dans une continuité historique dynamique. Dès ses origines, elle a fait appel à toute forme de raisonnement intuitif ou abstrait. Le confucianisme, qui devient une doctrine étatique à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ sous les Han, constitue le soubassement de la culture des lettrés, mais il ne cesse d'être confronté aux autres modes de pensée comme le taoïsme, l'école nominaliste, le légisme durant les royaumes combattants et plus tard au bouddhisme qui est introduit en Chine à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. Ces confrontations non sans heurts contribuent sous les sons 960 à 1279 un renouveau confucéen sans précédent, le néo-confucianisme, courant qui s'inspire de l'apport du taoïsme et du bouddhisme tout en les critiquant. J'essayerai de tracer, du point de vue philosophique et historique, quelques grandes lignes du confucianisme et du néo-confucianisme, ainsi que les contextes intellectuels et politiques qui ont favorisé leur formation. Première partie, Confucius et ses deux continuateurs. Premier point, Confucius. Si l'histoire dynastique remonte au Xia, 2207 à 1765 et au Shang, 1765 à 1122, Confucius, 551 à 479 avant Jésus-Christ, à qui on attribue la compilation du Chunqiu, printemps et automne, les plus anciennes annales de la Chine, celle du pays de Lu, se référait plutôt à la culture des Zhou, 1122 à 771, notamment à celle de ses débuts. À la différence des Shang, appelés aussi Ying, et qui fondaient leur gouvernement sur la religion, le respect des divinités, des esprits et des revenants, l'importance des devins, maîtres qui présidaient les cérémoniaux, des craquelures, des écailles et des carapaces de tortue, les Zhou fondaient leur civilisation sur les rites et l'éducation, c'est-à-dire que l'ordre religieux cède sa place privilégiée très tôt dans la civilisation chinoise à l'ordre humain auquel était centrée toute la réflexion de Confucius. Mais le déclin de la maison royale des Zhou et le commencement de l'époque des printemps et automnes plongent les royaumes dans des guerres et disputes de plus en plus violentes au temps de ce dernier qui était aussi l'âge de l'invention et de l'utilisation du fer. Qui était donc cet homme dont le nom n'est plus dissociable de la Chine et de sa civilisation? En fait, la vie de Confucius n'avait rien d'extraordinaire. Sa biographie fut relatée dans les mémoires historiques de Sima Qian. Il naquit, selon les dates traditionnellement retenues, en 551 avant Jésus-Christ, dans le pays de Lu, dans le Qufu, de l'actuel Shandong, et il mourut en 479 à l'âge de 73 ans. Son père mourut à sa naissance et Confucius grandit dans la pauvreté. Dans sa jeunesse, il étudia la musique auprès de Shixia, le système des fonctionnaires auprès de Tanzi, et les rites auprès de Lao Dan, qu'on identifie parfois à Lao Tzu, fondateur du taoïsme. Son amour pour apprendre était exemplaire. Il fut le premier penseur dans l'histoire chinoise à pratiquer un enseignement privé accessible aux élèves de toute catégorie sociale. Il rassembla autour de lui 3000 disciples, dont 70 furent célèbres. À 51 ans, il fut conseiller, ensuite ministre, grand ministre du pays de l'eau, pays de sa naissance. Mais sa vie politique ne connut que de brefs succès par rapport à certains de ses disciples qui occupaient des postes importants dans différentes principautés. Ses désaccords avec le prince de l'eau, qui laissait gouverner sa principauté par trois grandes familles, l'ont contraint de quitter le pays de l'eau et de s'exiler pendant plus de 14 ans, avant de regagner son pays au soir de sa vie, où il commença à compiler le Chunqiu, automne et printemps et automne. Confucius résume ainsi son parcours à 15 ans. Je résolus d'apprendre. À 30 ans, je m'affermis dans la voie. À 40 ans, je n'éprouvais plus aucun doute. À 50 ans, je connaissais les décrets du ciel. À 60 ans, j'avais un discernement parfait. À 70 ans, j'agissais en toute liberté sans pour autant transgresser aucune règle. L'enseignement de Confucius fut surtout oral. Ses disciples composeront les entretiens du maître, recueil qui rassemble les dialogues entre Confucius, ses élèves, les dignitaires et des princes. Apparemment peu systématique, ce recueil contient d'une manière condensée la pensée politique, éthique et éducatrice du maître. Face à la montée des puissances d'hégémonie au détriment du pouvoir royal, Confucius s'efforçait de faire suivre la voie, le Tao des rois Wen et Wu des Zhou et d'autres anciens sages rois ayant une qualité humaine supérieure et qui dominaient par le rite et la vertu. Rappelons que les anciens sages rois chinois n'étaient pas des dieux, des Hercules, comme ce qui était le cas dans la Grèce ancienne, mais surtout des hommes de haute vertu. Il dit « Je transmets sans rien créer. J'aime les anciens et crois en eux. » Cette phrase, qui donne apparemment l'image d'un Confucius conservateur, doit être lue autrement. Confucius ne cherchait pas une force transcendantale, un dieu omnipotent qui, par révélation, modèle la pensée et les conduites des gens, mais l'histoire et ses valeurs. Car à ses yeux, les valeurs traditionnelles telles que la vertu, le rituel, la piété filiale et le sens de l'humanité qui commençaient à se dégrader étaient encore enracinées dans la structure sociale et mentale des gens sans véritablement être ébranlées. C'est pourquoi il se donnait la tâche de réactualiser ces valeurs historiques humanistes. L'idée de Confucius était délibérément différent. L'idéal de Confucius était délibérément différent de la plupart des lettrés itinérants de son époque, qui contribuaient à l'intérêt au renforcement d'une telle ou telle autre famille, d'un tel ou tel autre royaume. Ce qui le visait, c'était un ordre universel. L'avenir de l'humanité même. La méthode qu'il utilisait était simple. C'était d'étudier et commenter le livre des odes, le livre des documents, les rites et la musique qui deviendront des classiques confucéens, mais qui n'étaient à l'époque que le socle des connaissances communes à tous ceux qui voulaient s'instruire. Sa préoccupation principale était de concevoir l'idéal d'un être humain qui devait avoir les qualités suivantes. Sens de l'humanité, qu'on peut traduire aussi par bonté ou générosité, fidélité, piété filiale, courage et intelligence. En bref, il voulait qu'on parvint à être homme de bien, fils du souverain, littéralement. Ce qui intéressait Confucius, ce n'était pas tant le sens étymologique de ce terme, qui désignait la noblesse du sang, mais plutôt son sens moral, c'est-à-dire la noblesse du cœur. La qualité suprême de l'homme est le sens de l'humanité. Et Confucius dit, « La bonté, c'est vouloir pour autrui ce que l'on voudrait pour soi-même. S'adresser et élever autrui, amener autrui là où l'on est parvenu. De celui qui serait ainsi capable de se donner en exemple, on peut dire qu'il offre la recette de la bonté. Le sens de l'humanité, qui est celui de partage entre deux hommes, entre plusieurs, est une valeur primordiale confucéenne. Elle est extensive, car elle se propage d'exemple en exemple. L'expansion des choses ou des qualités sera plus explicitée dans un petit texte programmatique, le Ta Xue, grande étude, texte extrait du Li Ji, mémoire sur les rites, et attribué par Chen Yi, 11e siècle, et Zhu Xi, 12e siècle, à Zheng Zi, l'un des disciples de Confucius, et à son école. C'est en examinant les choses que la connaissance atteint sa plus grande extension. Une fois étendue, la connaissance, l'intention devient authentique. Une fois l'intention authentique, le cœur devient droit. C'est en rendant droit le cœur que l'on se perfectionne soi-même. C'est en perfectionnant soi-même qu'on règle sa maison. C'est en réglant sa maison qu'on ordonne son pays. C'est lorsque les pays sont ordonnés que la grande paix s'accomplit pour tout l'univers. Remarquons que l'éthique et la politique sont intrinsèquement liées chez Confucius. Quand on lui demanda, après sa démission du gouvernement de Lu, pourquoi il ne resta plus dans ses fonctions politiques, Confucius, se contentant de citer le livre des documents dans lequel il est dit la piété filiale, rien que la piété filiale et l'amour fraternel, c'est déjà un engagement politique. Retournant à la question, est-il besoin d'être au gouvernement pour y prendre part? Deuxième point, mensus. Le confucianisme ne s'est pas imposé d'emblée, plusieurs voix se faisaient entendre, et cela surtout pendant les royaumes combattants, où les penseurs, les lettres itinérants, ont connu une liberté de moment sans précédent ni équivalent ultérieur. On appelle cette période celle des 100 philosophes. Le défi fut d'abord lancé par Mo Zi, 479 à 381, date approximative. Maître Mo, premier penseur qui atteint sa renommée depuis Confucius et qui fut aussi son premier contradicteur. Dans le Mo Zi, œuvre composée par les disciples de Maître Mo et qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ, on constate son goût pour l'art militaire, l'argumentation, l'articulation logique et sa croyance aux esprits, à l'amour universel et au pouvoir totalitaire de l'État. Mencius fut le premier grand continuateur de Confucius. Ce contemporain de Zhuang Zi aurait vécu aux alentours de 380 à 289. Mencius aurait étudié auprès d'un disciple de Zisi, petit-fils du maître, formé par son disciple Zheng Zi, filiation directe qui fait de lui l'héritier spirituel de Confucius. Pour défendre Confucius et sa doctrine, il devait faire face aux adeptes de Mo Zi, dont l'amour universel est pour lui sans distinction de ce qui est proche et de ce qui est une relation lointaine, et au taoïste Yang Zhu, imprégné de l'individualisme et de l'égoïsme. On ne sait pas grand-chose sur Yang Zhu, l'un des premiers taoïstes, sinon quelques éléments obtenus à travers des fragments le concernant repérables dans le Mencius ou le Zhuang Zi. L'époque de Mencius fut différente de celle de Confucius et il ne cessait de mettre en cause la politique d'hégémonie pratiquée de plus en plus fréquemment par les princes. Imposer la force aux gens, dit-il, s'appelle hégémonie. Pratiquer le sens de l'humanité s'appelle régner. Soumettre les gens par la force n'est pas une obéissance intérieure. À la politique d'hégémonie, Mencius oppose une politique fondée sur le sens de l'humanité qui consiste à gagner le cœur du peuple. Il dit, celui qui a le sens de l'humanité, qui consiste à gagner le cœur du peuple, il dit, celui qui a le sens de l'humanité est invincible. Le prince qui possède le sens de l'humanité sera invincible. Il existe ceux qui, dépourvus du sens de l'humanité, gagnent un royaume, mais il n'existe pas ceux qui, dépourvus du sens de l'humanité, gagnent l'empire. Celui qui pratique la politique dotée du sens de l'humanité peut régner. Fin de citation. La plus grande contribution de Confucius, de Mencius, à l'histoire de la pensée est sans doute sa thèse sur la nature humaine. Confucius était presque silencieux sur ce sujet. Il dit simplement dans ses entretiens, « La nature nous rapproche et la pratique nous éloigne. » Dans le chapitre « Gongsun Chou », Mencius utilise l'exemple du secours qu'on porterait à un enfant qui serait sur le point de tomber dans un puits pour montrer que tout homme possède en lui un sentiment de commisération envers autrui. Si l'on le secourait, ce n'est pas en raison d'une relation privée avec les parents de l'enfant, ce n'est pas pour acquérir une renommée dans la communauté du village et auprès de ses amis, ce n'est pas non plus par crainte des pleurs de l'enfant. Cette nature foncièrement bonne n'est pas seulement propre aux sages, mais aussi à chacun de nous. Seulement, l'homme de bien n'égare pas le cœur de bonté. Ce qui différencie l'homme de bien des gens du commun, c'est qu'il conserve son esprit. L'homme de bien conserve son esprit par le sens de l'humanité et le rituel. Mencius polémiquait avec un maoïste Gaozi, pour qui la nature humaine est la matière brute des choses et ses qualités la matière travaillée. Gaozi prétend que la nature humaine est neutre et qu'elle dépend de l'orientation humaine. Pour Mencius, cette différence n'existe pas. La nature humaine est intrinsèquement bonne, revêtue du sens de l'humanité et de la justice. C'est-à-dire que la nature humaine est elle-même orientée vers le bien. En même temps, il reconnaît que la bonté n'est dans le cœur de l'homme qu'en germe. Et le germe ne produit pas de grain si la terre qu'il a reçue est laissée en friche. Ainsi en est-il des vertus naturelles. Pour s'élever au-dessus de l'animalité, l'homme doit les cultiver. La thèse sur la nature humaine amène Mencius à postuler que tout homme peut être Yao et Shen, les sages empereurs mythiques. Il dit « Shen est un homme tout comme moi ». Par là, Mencius se différencie de Confucius, pour qui la sainteté est presque inaccessible. La thèse de Mencius sera reprise et développée par les néo-confuciens des Song et des Ming, lesquels emprunteront à Mencius la notion d'authenticité, Chen, notion déjà présente dans la grande étude et l'invariable milieu, attribuée à Zisi, petit-fils de Confucius. Cette tradition s'accorde à ce que l'authenticité, le fait de rendre parfaite sa pensée, soit l'œuvre du ciel, donc de la sainteté. Troisième point, Xunzi. La thèse sur la nature humaine de Mencius ne fut pas partagée par Gaozi ni par Xunzi vers 298 à 239 avant Jésus-Christ. Ce dernier, qui se voulait continuateur de Confucius, postule que la nature humaine est mauvaise et que la bonté en elle est un artifice. La thèse de Xunzi est très proche de celle du philosophe anglais Thomas Hobbes. auteur de Léviathan, est connu pour sa vision pessimiste de l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. La nature innée mauvaise n'empêche pas la vision optimiste de Xun Zi sur le devenir de l'homme. Il rejoint Mencius malgré leurs différences fondamentales sur la nature innée lorsqu'il dit « L'homme de la rue qui a accumulé en lui les qualités jusqu'à la perfection est appelé un saint. Il l'a d'abord désiré, puis il l'a réalisé. Il a d'abord agi, puis il a parachevé. Il a d'abord accumulé ses qualités, puis il s'en est trouvé grandi. Il a atteint la complétude, puis il est devenu un saint. C'est pourquoi le saint est l'accumulation des qualités de l'homme. » À la suite de Mozi, Xun Zi s'intéresse au rapport entre le nom et la chose. En effet, la rectification des noms était l'une des premières préoccupations de Confucius. Ce dernier disait « gouverner, c'est rectifier », c'est-à-dire rectifier les noms. Il disait à son disciple, Confucius disait à son disciple Zilu, « si les noms sont incorrects, on ne peut tenir un discours cohérent. Si le langage est incohérent, les affaires ne peuvent se régler. Si les affaires sont laissées en plan, les rites et la musique ne peuvent s'épanouir. Si la musique et les rites sont négligés, les peines et les châtiments ne sauraient frapper juste. Si les châtiments sont dépourvus d'équité, le peuple ne sait plus sur quel pied danser. Voilà pourquoi l'homme de bien n'use des noms que s'ils impliquent un discours cohérent et ne tient de discours que s'il débouche sur la pratique. Voilà pourquoi l'homme de bien est si prudent dans ce qu'il dit. » Confucius veut dire par là que la rectification des noms est le commencement de tout. Il faut dire que la rectification des noms est chez Confucius plus éthique que logique, alors que Xun Zi, tout en continuant l'œuvre de Confucius, essaie aussi de développer l'aspect logique de la relation entre le nom et la chose, avancée par Mo Zi. N'oublions pas que Xun Zi était contemporain des argumentateurs, dont je cite deux noms, Hui Si et Gongsun Long Zi. Le premier fut ami de Zhuang Zi et connu pour son fameux postulat « Le chien blanc est noir », Pai Gou Hei en chinois, ce qui signifie que le chien blanc est noir, ce qui signifie que le chien blanc est chien comme le chien noir. Au second, c'est-à-dire à Gongsun Long Zi, on doit l'énoncé Pai Ma Fei Ma, qui comprend deux acceptions. Un, le cheval blanc n'est pas cheval. 2. Le cheval blanc n'est pas la même chose que le cheval. Cela nous renvoie à Aristote qui dit dans Métaphysique, en dehors de chaque maison observable, il n'en existe pas une autre, une maison générale. On voit par là que la logique était tout à fait présente chez les premiers penseurs chinois, seulement elle n'était pas élaborée de façon autonome et la pensée chinoise n'a pas tout à fait suivi cette voie. Le chapitre « Rectification des noms » du Xun Zi est entièrement consacré à la relation du nom et de la chose. Xun Zi divise les noms en quatre catégories. Nom des châtiments, modèle des champs, ceux des titres nobiliaires, modèle des Zhou, ceux de la culture et des rites, modèle des Zhou, et ceux des choses multiples. Il s'est posé trois questions. 1. Pourquoi on a besoin des noms? 2. Pourquoi il y a des différences de noms? 3. Quel est le principe de nommer? Xun Zi affirme d'abord que l'emploi des noms est pour désigner la réalité. À partir de ce constat fondamental, il dit, on a inventé des noms pour désigner les réalités. Cela sert en haut à désigner le noble du vil, à distinguer le noble du vil, en bas à différencier le semblable du dissemblable. Si le noble est vil, semblable et dissemblable sont bien séparés, les pensées n'en courront plus le reproche d'être incompréhensible, ni les entreprises le malheur de buter sur 1000 obstacles. Voici les raisons pour lesquelles il faut les noms. Voyons maintenant comment il répond à la deuxième question. Quelles sont alors les raisons de ressemblance et de différence? Ma réponse est que cela provient de nos sens, organes naturels ou célestes, oreilles, les yeux, le nez, la bouche et le cœur. Nos sens perçoivent de la même manière toutes les choses de la même catégorie et les mêmes émotions. C'est pourquoi la comparaison est similaire et compréhensible de tous. On arrive alors à un commun accord des noms pour une entente mutuelle. La ressemblance ou la différence des noms est donc dictée par celle des perceptions et ensuite il y a une convention. Comme il le dit ailleurs, c'est aussi la réponse à la troisième question qui est un peu plus compliquée. Les noms ne sont pas appropriés de manière définitive. Ils sont fixés par convention. Ce n'est qu'une fois établie la convention et installée la coutume qu'on les considère comme appropriés et que tout ce qui s'écarte de la convention sont considérés comme inappropriés. Les noms ne dénomment pas telle ou telle autre réalité de manière définitive. Leur correspondance est fixée par convention. Ce n'est qu'une fois établie la convention et installée la coutume qu'on les considère comme dénommant telle ou telle autre réalité. Cette supposition concernant la convention reflète une conscience ou préconscience de l'arbitraire du signe, thèse de Saussure, fondateur de la linguistique moderne occidentale. Xunzi distingue aussi le nom monosyllabique, Tanming, du nom multisyllabique, le nom générique du nom spécifique. Le nom, dit-il, est ce au moyen de quoi on différencie les réalités. Une proposition est un enchaînement des noms désignant les réalités différentes pour exprimer une idée. Le discours et l'argumentation se fondent sur les mêmes noms désignant des réalités afin de rendre compte de leur voix tant dans le moment que dans la quiétude. Étant donné la richesse de la pensée de Xunzi, il est tout à fait juste de dire que Xunzi fait la synthèse des pensées des différents maîtres des royaumes combattants. Il n'est pas étonnant que certains comme Feng Youlan, 1895 à 1990, le rapprochent d'un Aristote, alors que Confucius, Mencius sont parfois comparés à Socrate et à Platon. Deuxième partie, l'orthodoxie confucéenne et les écoles concurrentes. Pendant que les confucéens s'occupaient de l'idéal humain, de l'éthique, de l'étude et de l'engagement social, les taoïstes ouvraient une autre voie, celle qui cherchait la communion entre l'homme et la nature. Il fut représenté par Zhuangzi, contemporain de Mencius, et Laozi, contemporain de Confucius selon les uns, et celui de Xunzi selon les autres. Contrairement aux confucéens qui, par leur souci social, cherchaient à servir le prince ou à valoriser la position des lettrés en faisant d'eux les interlocuteurs privilégiés des hommes du pouvoir, les taoïstes vivaient retirés et cherchaient une liberté individuelle. Selon eux, pour vivre d'une vie pleine et entière, il faut éviter toute déperdition d'énergie et ceux qui s'agitent, s'activent à la recherche de la fortune et de la gloire, veulent sauver le monde, ne sont que des ineptes qui gaspillent leur puissance vitale et s'interdisent tout espoir de parvenir à la véritable sainteté. La seule réalité véritable est le Tao, la voie, entité absolue dans leur doctrine. Zhuangzi dit, au commencement absolu, il y avait vous, l'inexistant. Il y avait ni existence, ni non. À partir de là, sortit l'un. Il y eut l'un, mais point encore de forme. Les choses obtinrent ainsi ce qui pouvait leur donner d'exister, c'est-à-dire ce qu'on appelle leur vertu. Au sein de ce qui n'avait point encore de forme, une séparation se produisit. L'inexistant est équivalent au Tao, d'où émanent les 10 000 choses et leur transformation. À part le confucianisme, le taoïsme, le maoïsme, le nominalisme et le légisme qui s'étaient imposés dans le premier empire de Qing, rappelons qu'il a fait enterrer vivant plus de 400 lettrés et brûler tous les ouvrages non techniques, il existait encore l'école du yin-yang et des 5 agents, école représentée par un Zhou Yan, 305 à 240 avant Jésus-Christ, qui aurait fondé une école très florissante au pays de Qi. Il patronna, dit-on, l'idée que les 5 agents, les 5 phases évolutives, c'est-à-dire eau, feu, métal, bois, terre, se succèdent en se détruisant les uns les autres. Ce système de conquête mutuelle va de pair avec la théorie corrélative, établissant les correspondances entre les 5 agents et tous les autres phénomènes naturels et sociaux. Cet ensemble théorique servira d'interprétation du monde et de base à la réflexion sur les relations entre l'homme, la nature, la société, le gouvernement, la santé. Il a influé de manière décisive et durable sur le développement ultérieur de la civilisation chinoise. Ceci d'autant plus que la théorie de Yin et Yang et des 5 agents, une fois assimilée à l'édifice doctrinal du confucianisme Han, est devenue le point de ralliement obligé de générations de penseurs et d'hommes de science dans leur investigation de la nature et leur appréhension de la place de l'homme dans le monde. C'est dans le mélange de cette théorie corrélative et du confucianisme que Tong Zhongshu, 195 à 115 avant Jésus-Christ, fournit aux Han les fondements cosmologiques, les 6 classiques confucéens qui sont pour lui les seules bonnes normes auxquelles le peuple devait se conformer. Un édit de 136 avant Jésus-Christ, par lequel l'empereur Wu des Han établit les chaires impériales pour les docteurs sur les 5 classiques confucéens, à l'exclusion de tout autre corpus, hissa le confucianisme à l'orthodoxie. Les savants de cette époque cherchaient à associer la cosmologie à la politique, adoptant une vision holiste, d'où l'intérêt général porté au I Ching, c'est-à-dire le livre des mutations, et notamment à son Shi Ci, grand commentaire. Le 3e siècle et le 4e marquent un renouveau intellectuel permettant de sortir des carcans de la seule doctrine confucéenne. Le début du Moyen-Âge chinois, je signale que le Moyen-Âge chinois se situe entre le 3e et le 6e siècle après Jésus-Christ, fut marqué par la vogue des causeries pures et l'étude du mystère, reflet du détachement général des lettrés des affaires de l'État. déchirés en plusieurs morceaux. Au lieu de servir l'Empire, il préférait se retirer et rêvait d'un retour à la nature. Le taoïsme retrouva alors un nouveau souffle. Des penseurs comme Wangpi. Wangpi est mort à 23 ans. Il est né en 226 et mort à 249. Et Guoxia, 252 à 312, contribuèrent à annoter ou à commenter le Laozi et ou le Zhuangzi, qui, avec le livre des mutations, constituaient les textes les plus fondamentaux de l'époque. L'originalité de Wangpi touche non seulement des questionnements fondamentaux de la philosophie chinoise, mais aussi des problèmes esthétiques. Je traduis pour donner un exemple, un extrait de son Zhou Yi Lue Li, la structure du livre des mutations. L'image, c'est ce qui extériorise le sens. Le langage, c'est ce qui explicite l'image. Rien ne vaut l'image pour rendre entièrement manifeste le sens. Rien ne vaut le langage pour rendre entièrement manifeste l'image. Le langage provient de l'image. C'est pourquoi on peut scruter l'image au moyen du langage. L'image provient du sens, c'est pourquoi on peut scruter le sens à l'aide de l'image. Grâce à l'image, le sens est entièrement exploré. Grâce au langage, l'image est transparente. En conséquence, le langage est ce par quoi on éclaircit l'image. Une fois l'image obtenue, le langage peut être oublié. De même, l'image est ce par quoi le sens est préservé. Une fois le sens obtenu, l'image peut être oubliée. Point suspension. À partir de là, celui qui conserve son langage n'est pas celui qui aura obtenu l'image. De même, celui qui l'y conserve, alors ce qui est conservé n'est pas l'image du sens. Le langage naît de l'image, mais si on l'y conserve, alors ce qui est conservé n'est pas le langage de l'image. Donc, celui qui aura oublié l'image s'appropria le sens. Celui qui aura oublié le langage ferait corps avec l'image. S'approprier le sens consiste à se défaire de l'image et faire corps avec l'image à délaisser le langage. C'est pourquoi établir l'image est pour rendre compte du sens, mais l'image elle-même peut être effacée. Accentuer la peinture, c'est pour exprimer jusqu'au bout les émotions, mais la peinture elle-même peut être oubliée. Ce passage qui explique les relations entre la pensée et sa représentation, c'est-à-dire le langage et l'image, marquera pour longtemps la mentalité des artistes et des poètes chinois. Par ailleurs, le néo-confucianisme du XIe siècle doit beaucoup à Wangpi, le penseur génie, qui fut le premier à associer le fondement constitutif, le qi en chinois qui signifie aussi structuralité, corps, constitution, d'un objet à sa mise en œuvre, c'est-à-dire yong, fonction, mise en œuvre, ce par quoi tout être advient à la manifestation, et à s'intéresser au li comme principe structurant. À partir du 1er siècle, le bouddhisme, fondé par Sakyamuni, un quasi-contemporain de Confucius, fut introduit en Chine. Sa thèse principale est fondée sur le Maya, procès karmique, existence sérielle faite de causes et de fruits, où l'instant et l'acte présent sont conditionnés par ce qui précède et conditionnent ce qui suit. Au début de son introduction en Chine, le bouddhisme avait beaucoup emprunté au Xuanxue, à l'étude du mystère représenté par Wangpi et Guoxia, pour proposer une terminologie compréhensible et acceptable de tous. L'enseignement primitif du Bouddha expose surtout la doctrine du dukkha, qui signifie en sanskrit la souffrance, la douleur, mais aussi l'impertinence mue par le désir et la convoitise. Sa composition, son origine, sa cessation et les sentiers ou les chemins qui mènent à faire disparaître le dukkha, c'est-à-dire la souffrance. Grâce aux traductions massives qui s'échelonnent sur près de 10 siècles, de la première moitié du 2e siècle au 11e siècle, et à la sinisation de cette religion d'origine indienne, le bouddhisme connut une grande floraison sous les Tang, 608 à 907. En 819, lors de la cérémonie de la réception par le souverain dans son palais d'une relique du Bouddha, elle fut accueillie en grande pompe et déposée pendant 3 jours au palais impérial avant d'être transférée à un temple. L'effervescence des croyants qui envahirent les rues de Chang'an, le Xi'an actuel, et dont certains crânes rasés se brûlèrent leurs doigts en signe d'hommage et d'offrande, était telle que le grand écrivain Han Yu, 768 à 824, écrivit le fameux mémoire sur la relique du Bouddha, adressé à l'empereur. Ce texte qui demande à l'empereur fervent, adepte du bouddhisme, de noyer ou de brûler la relique du Bouddha, a failli lui valoir la vie. Toutefois, la critique du bouddhisme par Han Yu relève des problèmes plus politico-économiques que philosophiques, comme l'indique à juste titre Feng Youlin. Han Yu avait parmi ses amis nombre de moines bouddhiques. Le bouddhisme est une spiritualité universelle, je cite Anne Chan, dans sa dimension introspective. Cependant, l'esprit en est le centre, qui en est le centre, est conçu comme vide, notamment de toute notion ou vertu morale, et qui va de toute évidence à l'encontre de l'idée confucienne, mancienne en particulier, que la nature humaine possède de manière innée des germes de moralité. C'est bien parce que le bouddhisme représente un immense défi au cadre institutionnel et intellectuel accepté depuis des siècles par la tradition confucienne qu'il a provoqué chez celle-ci un renouveau radical d'une ampleur comparable. Je passe maintenant à la troisième partie, le néo-confucianisme. Pour répondre aux défis des bouddhistes, les lettrés des Song centrèrent leur discussion sur les fondements cosmologiques communs à l'univers et à la société. Dans une époque où l'économie et la culture connaissent une euphorie, après 60 ans de désunion suite à la grande dynastie des Tang, les hommes de lettres étaient habités par un optimisme sans précédent et une volonté très ferme de vouloir retrouver la voie jugée perdue depuis Mencius. Beaucoup se voyaient vrais successeurs de ce continuateur de Confucius et détenteurs de la voie authentique, de la transmission de la voie. Leur ambition était de rejoindre l'esprit du ciel-terre, d'établir la voie au peuple, de poursuivre les études des anciens saints et de créer la paix pour 10 000 générations. Citation de Zhang Zai. Ce fut Zhou Dunyi, 1017 à 1073, considéré par Zhu Xi, 1130 à 1200, comme l'initiateur du néo-confucianisme, Tao Xue en chinois, qui avait lancé le débat. L'auteur de l'explication du diacame du fait suprême et du Tongshu, livre qui permet de comprendre les mutations, et hérita d'un taoïste le fameux diacrame du fait suprême dont il donna une explication philosophique inspirée du livre des Méditations. Si le fait suprême représente la constitution originelle de l'univers, le Panti, le fait humain, celle de la sainteté, est réalisable par l'authenticité, en chinois Chen. Zhang Zai, 1020 à 1077, sur qui je m'attarderai un peu, aimait l'art militaire dans sa jeunesse. Il écrivit une lettre à Fan Zhongyan, qui était un homme politique de l'époque, qui était alors vice-gouverneur du Shanxi, pour lui exposer la stratégie. Ce dernier lui conseilla de se tourner vers le confucianisme et de lire l'invariable milieu. Après cette lecture, Zhang Zai passa plusieurs années à lire les œuvres bouddhistes et taoïstes avant de se diriger définitivement vers les classiques confucéens. Sa philosophie a été construite à partir de la notion du souffle, qui est traduit parfois par énergie, considérée comme fondement du monde. Ses idées sont magnifiquement exprimées dans Initiation correcte, Zhengmen, œuvre posthume du penseur, et l'explication de Zhang Zai sur le Yi Jing. Au couple notionnel posé par les bouddhistes qui avaient établi l'antinomie phénomène et principe absolu, Shi et Li, Zhang Zai oppose les souffles qui constituent la seule réalité des choses. Pour lui, il existe deux aspects de souffle, la condensation et la dispersion. La dispersion est l'état originel des souffles dont la condensation engendre 10 000 choses. L'état originel des souffles est ce qu'il appelle le vide suprême. Le vide suprême, dit-il, n'a pas de forme. C'est la constitution originelle des souffles. Leur condensation et dispersion sont des formes temporaires dues aux changements et transformations. Le vide suprême n'est donc pas l'inexistant taoïste. Pour Zhang Zai, la distinction entre l'existant et l'inexistant n'est pas valable, car le monde phénoménal est toujours rempli d'énergie souffle. Zhang Zai, que le commentateur marxiste qualifieront de matérialiste, fut aussi l'un des penseurs chinois à avancer l'hypothèse de la conservation des énergies. La condensation et la dispersion des souffles sont au vide suprême ce que le gel et la fonte sont à l'eau. Savoir que le vide suprême est du souffle, c'est savoir qu'il n'y a pas d'inexistant. Et encore, à celui qui sait que la mort, si en chinois, n'est pas un anéantissement ou déperdition totale, on peut parler de la nature humaine. Selon le grand commentaire du livre des Mutations, ce qui est en amont des formes s'appelle Tao et ce qui est en aval des formes s'appelle chose concrète. Pour Zhang Zai, les souffles sont à la fois l'amont et l'aval des formes, ce qui fonde le monde et le monde même, même si lui-même ne l'a pas explicité de cette manière, ce qui sera fait par ses continuateurs comme Wang Fuzhi, 1619 à 1692. Zhang Zai ne se contente pas de la proposition du vide suprême comme forme initiale et ultime des souffles, il l'accompagne par tout un système notionnel, il recourt à la notion de force animatrice, Shen, esprit, puissance spirituelle, aspect merveilleux, insondable des choses, pour expliquer le passage du vide suprême aux 10 000 choses. Il la définit comme la réaction subtile du vide suprême ou comme mécanisme déclencheur, qi, quelque chose qui déclenche notion, qui sera beaucoup plus explicite par un penseur des Ming, Wang Qingxiang, 1474 à 1500. 44. En effet, seule la force animatrice, c'est-à-dire une force intérieure, peut susciter changement et transformation, et cela grâce aux réactions et incitations extérieures. Les souffles, dit-il, sont à l'origine vides, indifférenciés et sans forme. Leur réponse aux incitations les anime. Alors, ils se condensent et il y a des phénomènes. La force animatrice est une puissance interne, alors que la réaction aux incitations, une capacité d'agir. Puisqu'il y a deux extrémités, c'est pourquoi il y a réaction. Puisque l'origine est un, c'est pourquoi il y a union. Les réactions aux influences donnent lieu aux transformations. Une chose a deux aspects, c'est le souffle. Puisqu'il y a un, il y a donc la puissance animatrice. Puisqu'il y a deux, il y a donc les transformations. Considérer les souffles, à l'instar de Zhangzi bien sûr, comme constitution originelle, était déjà préconisé par les penseurs des Han, mais fonder toute la conception cosmologique sur cette constitution originelle et établir tout un système autour de cette notion est une contribution très importante de Zhangzi. La thèse sur la constitution originelle du monde a aussi guidé sa conception de la nature humaine. Il distingue deux sortes de nature humaine, la nature du ciel-terre, tiandi zhixing, et la nature des énergies-matières, qi zhi zhixing. Cette distinction fut généralement acceptée par les néo-confucéens des Song, malgré leur divergence. La nature du ciel-terre est bonne comme le ciel, alors que la nature des énergies-matières dépend de l'homme, de ce qu'il a reçu comme souffle. Pour Zhangzi, par rapport à la chose qui reçoit des souffles troubles, l'homme reçoit des souffles clairs. Mais parmi les hommes, il y en a qui reçoivent les souffles les plus purs, ils deviendront sages. Ceux qui reçoivent les souffles troubles deviennent hommes moyens et ceux qui reçoivent des souffles les plus troubles deviennent méchants. Cela dit, l'homme ordinaire peut toujours devenir sage par la voie de l'étude. La pensée de Zhangzi s'oppose au taoïsme qui considère que l'existant est engendré par l'inexistant, au bouddhisme qui ne croit pas au monde, à l'existant qui n'est qu'une illusion pour les bouddhistes. Chen Hao, les frères Chen Hao et Chen Yi, Chen Hao 1032 à 1085 et Chen Yi, le cadet, 1033 à 1107. Neveu de Zhangzi et disciple de Zhou Dunyi et plus tard Zhu Xi continuèrent inlassablement leur investigation sur la relation entre constitution originelle, le Penti, et les phénomènes du monde, Shi, ou celle entre l'amont et l'aval des formes. Il transformait la thèse de Zhangzi en considérant le vide suprême comme l'amont des formes et les souffles comme l'aval des formes. C'est oublier que le vide suprême de Zhangzi n'est pas seulement l'état originel des souffles comme fondement constitutionnel, mais aussi leur forme ultime dans leur dispersion. Les frères Chen s'en rendaient probablement compte et ont vite remplacé le vide suprême par le principe des choses, le li, maître mot dans leur philosophie. Pour eux, le principe est à la fois une réalité et l'origine du monde phénoménal. À leurs yeux, Zhangzi retombe dans le piège des bouddhistes lorsqu'il énonçait que la mort n'était pas la déperdition totale. La pensée de Zhu Xi est fort complexe. Zhu Xi, 1130 à 1200. D'une part, il se réclamait des frères Chen, notamment de Chen Yi, le cadet, plaçant le principe des choses au niveau de la constitution originelle, tout comme la voix et les souffles comme sa fonction ou sa mise en œuvre. D'autre part, Il disait aussi que le principe des choses et les souffles étaient inséparables. Zhu Xi passa sa vie à annoter les classiques confucéens, à compiler et à commenter les œuvres ou les propos de Zhou Tongyi, des frères Cheng et de Zhang Zai, considérant ces quatre maîtres comme échelle indispensable au cycle classique. Zhu Xi a aussi développé la notion du cœur, Xin en chinois, en l'identifiant à la nature humaine. Il considère que le cœur est le maître des 10 000 choses, le Tao de tout l'univers en provient. Même si le cœur n'est maître que d'un seul corps, sa souplesse constituante suffit à diriger les principes de l'univers. Cette phrase de Zhu Xi sera reprise par les partisans de la primauté du cœur à leur profit. Néanmoins, Zhu Xi différencie deux sortes de cœur ou d'esprit, un esprit du Tao et un esprit humain. Le premier est un éveil du principe des choses et le second, celui du désir. En d'autres termes, l'esprit humain provient du souffle du sang, alors que l'esprit du Tao provient du principe du juste. Le Tao revient donc à la préservation du principe céleste ou de la raison du ciel, Tianli en chinois. Pour cela, il faut d'abord se défaire du désir humain. Même si Zhu Xi accordait une grande importance au cœur, à la notion de cœur de Xin, il s'opposait à l'assimiler à la constitution originelle, au Benti, comme ce qui a été fait par son contradicteur Lu Jiuyuan, 1139 à 1193, considéré comme fondateur de l'école intuitionniste. Originaire du Jiangxi où Wang Yangming travaillera 3 siècles plus tard, Lu Jiuyuan avançait la thèse selon laquelle le cœur est le principe des choses. Pour lui, l'univers est mon esprit est l'univers. En 1175 eut lieu le célèbre débat entre lui et Zhu Xi au temple du lac des lois à Xingzhou dans le Jiangxi, où les deux penseurs ont exposé leurs points de vue différents. Pour Lu Jiuyuan, tout naît de notre propre cœur. Le cœur, dit-il, tout le monde l'a. Il est le principe même. Il s'oppose à la distinction de Tao et de Qi, à souffle, énergie, faite par Zhu Xi au nom de la différence entre l'amont et l'aval des formes. Pour lui, ce sont deux entités inséparables. Si Zhu Xi fonde la compréhension du principe des choses sur l'examen des choses, sur l'érudition dont il était exemplaire, Lu Jiuyuan propose une méthode plus simple. C'est de découvrir le cœur propre. Les anciens, dit-il, n'enseignaient que la façon de préserver et de nourrir le cœur pour en avoir la tranquillité. Son souci se tourne donc vers la manière d'être homme, comment être une personne la plus ordinaire et en même temps capable de tout quand les situations l'exigent. En citant Mencius, Lu Jiuyuan dit « La constitution du cœur est immense. Quand le cœur est pleinement déployé, il s'identifie au ciel. Le cœur est ainsi posé non seulement comme fondement d'un individu, mais aussi comme celui de l'univers, représenté par le ciel. Sa théorie sera développée par son disciple Yang Jian, 1140 à 1226, à qui on reproche la tendance bouddhiste et renouvelée par Wang Yangming et ses successeurs. Si la philosophie des frères Cheng et de Zhu Xi restera dominante pendant plusieurs siècles dans la Chine impériale, du fait que leurs annotations des classiques deviendront les programmes indispensables dans les examens impériaux, la pensée de Zhang Zai sera développée par Luo Qingshen, 1465 à 1547, Wang Tingxiang, 1474 à 1544, et atteindra son sommet avec Wang Fuzhi. La philosophie intuitionniste de Wang Yangming, continuateur de Lu Jiuyuan, connaîtra un grand succès et constituera au milieu des Ming une des réactions à l'égard de la lignée des frères Chang et de Zhu Xi. J'arrive maintenant à la conclusion. L'aperçu sur l'histoire confucéenne et néo-confucéenne que je viens d'effectuer ne peut qu'être sélectif, même s'il a été associé à une évocation très panoramique également des plus éminents représentants d'autres courants de pensée qui ont partagé avec le confucianisme la scène intellectuelle chinoise. On a souvent tendance à exagérer les différences entre les différents courants d'idées, entre les penseurs mêmes. En fait, il s'inspirait en s'attaquant. La formation des lettrés dans la Chine classique était certes centrée sur le confucianisme, mais force est de constater qu'aucun des lettrés sérieux ne se bornait à une seule école, malgré des circonstances qui les amenaient à défendre publiquement un seul courant d'idées ou un seul penseur. Presque tous les néo-confucéens ont fait un détour plus ou moins long dans des textes taoïstes et bouddhiques avant de revenir définitivement au classique confucéen. Zhu Xi lui-même, dont l'interprétation philosophique deviendra dominante pendant plusieurs siècles, était exemplaire de la quête du savoir universel, invitant les lettrés à s'intéresser à des œuvres confucéennes, taoïstes, voire techniques. C'est justement ces confrontations d'idées qui ont enrichi l'histoire de la pensée chinoise. Merci.